bonsoir, Kiola, good evening. Une émission comme de coutume placée sous le signe de la jeunesse et de la beauté. Ce soir, en tout cas en tout petit comité, il n'y a qu'Yvan. Bonsoir Yvan, aux manettes.
Bonsoir, mais on n'est pas en tout petit comité. En fait, on a plein d'enfants autour
on
de nous.
On a des enfants, mais là, en passagers clandestins et extrêmement silencieux, je l'espère.
Oui, ils peuvent se présenter. Hein.
Alors, qui avons-nous autour de cette table? Nous avons là-bas, à la casquette, monsieur...
Antoine.
Ouais. Et monsieur qui cache sa bouche derrière ses doigts?
Charles.
Une petite passagère clandestine extrêmement discrète qui s'appelle Loulou. Et nous avons Lise au casque là-bas. Ce soir, au programme, nous passerons un extrait de notre petite cousine de Christchurch, Paris s'éveille, dirigé par Anne-Sophie Béru, qui... ce soir, interviewera Antonio Viselli, qui est chef du programme de français à l'école des langues et de sciences sociales et politiques de l'université de Canterbury à Christchurch. Un peu plus tard, je parlerai d'un film qui me tient tout à fait à cœur. Il s'agit de L'Assassin habite au 21 d'Henri-Georges Clouzot. Mais tout de suite, démarrons en musique avec l'immense, l'extraordinaire, l'éternel Sacha Distel. Tu aimes Sacha Distel, Yvan?
Oh, j'adore. J'ai tous ses albums en vinyle.
C'est vrai?
Ouais. Non, mais j'ai vendu mes vinyles maintenant, ça fait bien longtemps, quoi.
Pas de regrets?
Ah, si, beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. Enfin, j'en aurais bien gardé, disons, une bonne centaine quand même. Mais bon.
Et tu avais Sacha Distel en vinyle, donc?
Non, mais je pense que mes parents l'avaient. Si je me souviens bien.
Quelle est ta chanson préférée de Sacha Distel?
Je pourrais pas te dire.
Tu pourrais pas me dire? C'est un secret?
Non, c'est même pas un secret, c'est que je me rappelle même plus de quelle chanson il a chanté, quoi.
Eh bien, la mienne, c'est La Belle Vie, et ça s'écoute tout de suite.
Cool.
C'est une version légèrement remixée. À tout de suite.
Belle Vie.
C'est pas mal, hein?
Ouais, c'est très bien.
Ils ont un beat sympathique qui a été ajouté récemment.
Il y a beaucoup plus en Nouvelle-Zélande pour les gens qui nous écoutent en Nouvelle-Zélande.
Ma femme connaît. Ma femme connaît.
Connaissait
avant que je le mentionne fort récemment.
Très bien.
Elle écoutait dans sa jeunesse, à moyenne distance. Tout de suite, on va commencer en écoutant notre collègue de Canterbury, Anne-Catherine, qui interviewe donc Antonio Viselli de l'université de Canterbury à Christchurch. Et pourquoi attendre plus longtemps ?
On y va.
Un semestre à Bergame en Italie et un semestre en Écosse à St Andrews University. Trilingue français, anglais, italien dès l'enfance, vous vous êtes naturellement tourné vers la littérature comparée. Et vous avez dans toute votre carrière tâché de tisser les ponts entre les cultures et les langues, notamment à la recherche de l'Italie chez l'auteur français Tristan Corbière. Vous êtes titulaire d'un doctorat à l'Université de Toronto en littérature comparée, avec un sujet de thèse intitulé « The Modernist Subject in Time, Fugue and the Fourth Dimension ». Vous vous êtes intéressé au lien entre musique et littérature, la fugue en particulier, un thème récurrent dans votre recherche. En 2013, vous avez été nommé chef du programme de français à l'Université de Canterbury. Et vous êtes depuis installé avec votre famille à Christchurch. Antonio, votre père est d'origine italienne, vous parlez français, votre maman vous parlez l'anglais, si j'ai bien compris. Est-ce que cela vous a quelque part prédisposé à faire des études comparatives ?
Oui, j'étais très chanceux de grandir dans un milieu trilingue. J'ai une langue maternelle, je peux dire, c'est l'anglais, une langue paternelle. Et mes oncles et mes tantes m'ont toujours parlé italien. Je dirais que peut-être même avant être prédisposé à des études littéraires, c'était les langues qui m'intéressaient justement. Donc je pensais plutôt à la traduction et à l'interprétariat, bizarrement. Je repense à mon enfance lorsque ma grand-mère anglophone venait nous rendre visite à Perpignan et que j'étais traducteur dans les boulangeries, par exemple. Donc je me posais plutôt des questions linguistiques que littéraires. Ayant un père comme prof de littérature de la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle, je ne m'intéressais pas énormément à la lecture, bizarrement. Et ça a pris une année de lycée en France pour que je découvre un petit peu la littérature. Cela dit, j'ai été très chanceux d'être ouvert à différentes langues et donc, en l'occurrence, à différentes cultures aussi. Donc le côté comparé était inné, quelque part, bien que...
Et du coup, dans quelle langue est-ce que vous pensez, en fait ? Est-ce que trilingue, c'est avoir plutôt trois patries ou est-ce que c'est être trois fois en exil ?
Oui, c'est une très bonne question et difficile. Je pense très souvent ou en anglais ou en français, dépendant du contexte. Il y a des jours où le français ne sort pas du tout de ma bouche et c'est l'anglais qui domine. Mon épouse est d'origine mexicaine et espagnole, donc c'est le français et l'espagnol avec nos enfants à la maison. Et on se trouve souvent dans des contextes un petit peu d'interlangue, pour parler en termes linguistiques. Entre deux langues, il y a du code switching qui se passe très souvent. Et je l'entends justement chez mes enfants. Donc j'ai une fille qui aura bientôt 4 ans et mon garçon 2 ans et demi. Et ils répètent tout ce qu'ils entendent, ce sont des éponges. Donc jusqu'à l'âge de 7 ans, il reste quelques expérimentations familiales. La question de la patrie est intéressante aussi. Je pense à mon enfance... Père italien, on regardait des matchs de foot ensemble. Et si la France battait l'Italie, on essayait de maintenir la langue italienne à la maison le plus possible. Mais ça ne durait pas plus de 15-20 minutes. Donc pour nous, les langues, elles sont viscérales. Moi, j'associe différentes langues aux personnes. À ma mère, à mon père et à mes oncles et mes tantes.
Et le déclencheur pour la littérature, justement, si au-delà des langues, qu'est-ce que ça a été ?
Alors, je suis parti en France pour faire ma première... Et c'était une première L, donc littérature. J'avais, entre 12 et 14 heures de littérature par semaine. Et c'est là où j'ai découvert Baudelaire, en fait, et la poésie. Et plus tard dans la vie, je me suis intéressé à la poésie du 19e siècle, plus précisément au symbolisme et au modernisme.
Oui, alors ben justement, on va y venir. Sur quoi porte votre recherche actuellement, dans quel sujet vous avez la tête ?
Alors, je travaille surtout sur la poésie fin 19e, poésie et prose début 20e, littérature comparée, comme vous avez dit, français, anglais, italien, espagnol. Je travaille sur un volume avec une collègue de l'Université de Toronto qui s'intitule « An Iconoclasm Dictionary ». Qui porte un peu plus sur les côtés études culturelles, cultural studies et littérature comparée, donc définir l'icône et l'iconoclasme et comment l'iconoclasme devient iconique en quelque sorte. Et ça se déplace, c'est un peu plus loin de ma recherche habituelle, qui porte surtout sur la poétique, les poétiques, différentes langues, notamment, comme vous l'avez dit, Tristan Corbière. Donc je travaille sur Corbière et l'importance de l'Italie dans son unique recueil de poésie, Les Amours Jaunes.
Et entre autres sujets, la fugue, c'est un thème sur lequel vous avez beaucoup travaillé dans vos essais. Oui. Pourquoi ça ? D'où est-ce que ça vous vient ?
Oui, la fugue, c'est intéressant comme thématique musicale, j'y reviens aussi, donc il y a une certaine polyphonie même à mon rythme de recherche. C'était en lisant James Joyce, l'Ulysse de Joyce, où j'ai découvert la structure musicale de la fugue en littérature, donc d'un point de vue intermédial, nouer des liens entre musique et littérature, parce que dans son épisode Sirens, il a rédigé cet épisode comme, je cite, une fuga per canonem. Et dans un cours en licence, on s'est attardé beaucoup sur l'Ulysse de Joyce, et j'ai décidé d'y revenir lors de la thèse, justement en me posant la question, où est-ce que cela commence en littérature ? Il y a plusieurs auteurs français, italiens, anglophones, qui s'intéressent à ce style musical transposé en littérature. Comment la littérature peut suggérer cette structure ? Et je me suis posé la question, où est-ce que ça commence ? Et ça m'a ramené au 19e siècle avec Thomas de Quincey et chez les symbolistes, donc Verlaine, Mallarmé. Et comme contexte, je me suis arrêté au début du 20e siècle, donc le modernisme avec James Joyce, Ezra Pound, Elio Vittorini, Umberto Saba et André Gide. Et c'était surtout, donc, d'un point de vue intermédial, analyse musicale, mais aussi structurelle. C'était, pour citer l'exemple de Bach, revenir à un certain baroque, un néo-baroque en littérature et en musique, pour représenter la subjectivité moderne. Bach avait caché certaines lettres de son nom dans son art de la fugue, des Kunsterfuge, et certains auteurs ont essayé de répliquer, justement, de refaire ce que Bach avait fait en musique, mais en littérature. Et ça revient un petit peu à la représentation d'une subjectivité moderne fragmentée. Et je retrace cela à Baudelaire et à sa définition de la modernité comme étant le fugitif et le transitoire d'une part, et l'éternel et l'immuable de l'autre. Donc le côté fugitif, fuga, qui se relie à des choses très actuelles comme réfugié, entre autres, d'un point de vue étymologique.
Mm-hmm. En parlant justement de mêler musique et poésie, on va enchaîner avec un intermède musical. Il pleut doucement sur la ville, chanson du cycle des Ariettes oubliées de Debussy sur un poème de Verlaine, chanté par Dawn Upshaw. La fugue, nous parlions de la fugue, c'est quelque part aussi la représentation de l'auteur par lui-même dans son texte. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ?
Oui, absolument. Donc, par définition, la fugue est polyphonique. Représenter la polyphonie en littérature est très difficile parce qu'on parle d'un ouvrage syntagmatique, c'est-à-dire linéaire. On lit un mot après un autre, tandis qu'en musique, on a quand même une certaine verticalité à la musique qu'on ne peut pas nécessairement représenter. Cela dit, il y a le côté paradigmatique au vertical lorsqu'on considère l'auteur, la voix narrative et la voix des personnages aussi dans les recueils ou dans la poésie. publié notamment sur Gide et les faux monnayeurs, et comment ces mises en abîme, finalement, récurrentes, peuvent suggérer ou évoquer un sentiment de fugue. Donc tout cela entre fin 19e, début 20e, la vitesse de la modernité, pour venir à la définition de Baudelaire, tout cela semble jouer un rôle assez intéressant, et ça influence des auteurs d'expression anglaise, française et italienne à plus ou moins 50 ans d'écart. Donc je voulais faire une étude comparée justement sur cela. Et la notion de la subjectivité moderne revient comme définition même de cette fugue littéraire.
Mmh. Et vous travaillez aussi sur Tristan Corbière, poète breton, donc né en 1845, mort en 1875, classé poète maudit d'après l'ouvrage éponyme de Verlaine. D'abord, pourquoi poète maudit ?
Poète maudit, justement, parce qu'il y a très peu de gens qui le lisent actuellement. Bon, de plus en plus, je devrais dire. Mais il était assez maudit parce que délaissé par sa famille à Roscoff, il n'a jamais terminé ses études de lycée. Il était tuberculeux, malade. Il meurt, comme vous avez cité les dates, à l'âge de 29 ans. Comme d'autres poètes symbolistes, on a Laforgue qui meurt à 28, Lautréamont à 24. Maudit parce qu'il écrit aussi une poésie grinçante, anti-lyrique, anti-romantique. Maudit aussi les amours jaunes parce qu'il n'y a pas vraiment d'amour réciproque. Donc je me suis penché sur... oui.
Alors les amours jaunes, justement, on va en parler. Vous y travaillez, vous y avez détecté quelque part un lien avec l'Italie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
Tout à fait. Dans la publication que vous avez citée de Verlaine, Verlaine cite deux identités différentes chez Corbière. Il y a le parisien, le dédaigneux et le railleur de tout et de tous, et le breton, bretonnant de la bonne manière. Et c'est intéressant que ces deux identités divisent le recueil en deux parties, presque parfaitement. Mais au centre du recueil, il y a une section qui s'intitule « Racro » au pluriel. Et dans cette section-là, on a sept poèmes qui portent sur l'Italie. Et au début du recueil, Les Amours Jaunes, il définit sa poétique comme un coup de racro, juste au faux, par hasard. L'art ne me connaît pas, je ne connais pas l'art. Et donc, je trouve que c'est un indice quand même assez important à suivre. Et je me suis attardé sur la section de racro en me disant, il n'y a pas seulement la Bretagne et Paris chez Corbière, mais il y a aussi l'Italie de Corbière. Donc je reviens sur plusieurs exemples intertextuels chez Corbière, mais aussi au temps qu'il a passé en Italie. Donc il a effectué deux voyages en Italie, de Gênes jusqu'à Naples, et il a séjourné à Naples et à Capri, particulièrement avec d'autres poète et artiste. Il était artiste tout comme poète. Mais il était surtout amoureux d'une jeune actrice parisienne d'origine italienne, Armida Giuseppina Cucchiani, qui avait séjourné à Roscoff, où le poète habitait tout seul. Elle avait séjourné avec son amant Alphonse de Patine, qui était blessé lors de la bataille du Mans. Et donc, il se passe une relation un peu ambiguë, un triangle amoureux un peu bizarre. Et ce trio voyage à Paris, mais aussi à Capri. Donc, je repasse sur les traces de Corbière en Italie d'un point de vue biographique et poétique.
Mmh. Et dans l'étude de la littérature française à l'université, on parle assez peu des femmes, globalement. Qui ont souvent été publiés sous des noms d'emprunt et des choses comme ça avant le XXe siècle. Comment est-ce qu'on peut réintroduire quelque part la parole féminine dans l'enseignement de la littérature ?
C'est une excellente question. J'ai cité l'exemple de James Joyce tout à l'heure, et ça semble un peu bizarre, mais c'est Hélène Cixous qui avait dit que c'était le premier exemple d'écriture féminine, selon elle. Même si, personnellement, je publie très peu sur les auteurs femmes, malheureusement, d'un point de vue pédagogique, au contraire, j'essaie de souligner la présence des auteurs féminins. Je pense à Gabrielle Roy pour des exemples au Canada, qui est de Saint-Boniface, en fait, pas loin de Winnipeg. Mais ce qui plaît énormément aux étudiants, c'est de voir... la présence importante des femmes d'un point de vue de la méthodologie et de la théorie. Donc dans des cours, j'ai enseigné Simone de Beauvoir, des théories féministes, Et je citais Hélène Cixous qui m'intéresse énormément lorsqu'on regarde un petit peu des théories postcoloniales ou le subalterne, par exemple, par excellence, être entre différentes patries et langues, cela revient aussi dans nos cours. Après, quand on a très peu de temps en classe pour lire le canon, comme on dit, c'est vrai qu'il faudrait s'attarder davantage autant sur les poètes minoresses que des poètes et écrivaines femmes d'un point de vue diachronique. Que ce soit Louise Labbé, Madame Sévigné, Georges Sand, vous avez mentionné le nom d'emprunt.
Ou des contemporaines.
Oui. Ou plutôt contemporaines, oui. L'enseignée Duras plaît beaucoup à nos étudiants. Mais il faut mettre davantage l'accent dessus, je suis tout à fait d'accord.
Et quel est selon vous l'intérêt d'étudier les langues à l'université, le français en particulier? Contrairement aux sciences appliquées, les humanités doivent souvent défendre quelque part leur droit à l'existence. Qu'est-ce que vous avez à répondre quelque part aux détracteurs des humanités?
C'est une conversation que j'ai, hélas, très souvent. Il faut légitimer notre propre existence. Alors, d'une part, apprendre les langues nous ouvre à maintes cultures. On apprend une langue, ça facilite l'apprentissage d'autres langues aussi. Surtout en Nouvelle-Zélande, on pourrait facilement vivre dans ce que des linguistes appellent un anglo-bubble, une bulle anglaise où on croit que le monde entier parle anglais, on se débrouille en anglais. D'un point de vue cognitif, c'est excellent pour le cerveau d'apprendre des langues. Cette ouverture d'esprit, être ouvert à l'autre, des études sur l'altérité. Le français notamment, je cite des exemples pour mes étudiants. On parle français, il y a 220 millions de locuteurs français, si je ne m'abuse. On parle français sur tous les continents de la Terre, ce n'est pas rien. Et d'ici 2050, j'ai lu un article récemment qui expliquait que le français allait être la première langue maternelle du monde, d'ici 2050. Bon, j'ai quelques doutes, mais c'est surtout à cause des langues régionales africaines qui tombent en désuétude. Voilà, donc oui.
Oui, et donc justement les Kiwis qui vont à l'université pour apprendre le français, qui sont-ils?
Oui, alors moi je suis à l'université de Canterbury depuis 15 mois maintenant. J'ai enseigné à deux ou trois universités canadiennes avant de venir en Nouvelle-Zélande. Et mes étudiants au Canada étaient surtout des étudiants qui se destinaient à une carrière pédagogique, éducation. Parce que le bilinguisme au Canada est quand même toujours présent et important. Tandis que mes étudiants kiwis font souvent des doubles majeurs. Donc la majorité de mes étudiants font une licence ou une concentration majeure, comme on dit au Canada, en sciences politiques et français. Ensuite en droit et en français. Et d'autres étudiants qui font une double majeure en linguistique ou histoire, anglais et français. Donc ils combinent les langues avec d'autres disciplines, ce que je crois être vraiment la carte à jouer pour la
pour se donner plus de chances de déboucher, notamment ici en Nouvelle-Zélande, j'imagine.
Exactement.
Et en parlant justement d'apprendre le français à des Néo-Zélandais, vous envoyez des étudiants à l'université de Nouvelle-Calédonie cette année, c'est bien juste, donc du 20 novembre au 9 décembre à Nouméa.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ce programme?
Oui, tout à fait. Je reviens de Nouméa. J'y étais pendant une dizaine de jours avec des collègues d'Australie. Et c'était un excellent séjour. C'est incroyable de penser qu'un pays francophone n'est qu'à 3 heures de distance. L'université de Canterbury a déjà des ententes avec Sciences Po à Paris, avec Aix-en-Provence et avec La Rochelle. Et cela m'intéresserait beaucoup d'établir des liens plus étroits avec l'université de la Nouvelle-Calédonie. Donc, cette université permet aux étudiants de suivre un cursus intensif pendant 3 semaines. C'est surtout pour des étudiants de niveau B1, B2, donc en français intermédiaire. Ils peuvent séjourner, ils restent en résidence pendant 3 semaines là-bas, suivre des cours intensifs de langue, mais apprennent aussi la culture sur place, des séminaires avec des spécialistes en biologie marine, par exemple, ou en archéologie. Donc c'est une chance assez remarquable pour nos étudiants, une mobilité courte et qui, j'espère, nous aidera aussi à garder des effectifs, à garder des étudiants intéressés à apprendre le français et pour établir des collaborations potentielles niveau recherche et enseignement avec des partenaires qui font concurrence à la Tour Eiffel, si je puis dire.
Et vous collaborez parfois aussi avec l'Alliance française, c'est bien juste,
oui.
Ici à Christchurch, qui a aussi des liens forts avec la Calédonie.
Oui, effectivement. Et j'ai rencontré plusieurs membres de l'Alliance française à Nouméa, que je n'avais pas eu l'heure de rencontrer ici en Nouvelle-Zélande. Nous n'avons organisé qu'un seul véritable événement l'année dernière avec l'Alliance française, et c'était l'invité Joseph Chovanec, qui est venu nous parler de ses ouvrages, notamment « L'amour en autistan », donc « Vivre d'un point de vue de quelqu'un d'autiste », une présentation remarquable. Mais avec Morgane Jaffry de l'Alliance française, on compte organiser tout de même encore des événements ensemble et en collaboration. Mm-hmm. Parce que c'est important de travailler ensemble.
Oui, et je signale au passage que Yves Lafoy va venir à la fin du mois d'octobre pour justement inaugurer un centre de nouvelles autour de la Nouvelle-Calédonie à l'Alliance française. Peut-être l'occasion justement de futures collaborations.
Tout à fait. Le 25 octobre, si je ne m'abuse.
25 octobre, oui. Exactement. Et vous avez choisi donc aujourd'hui de lire un poème qui vous tient particulièrement à cœur. Est-ce que vous pouvez peut-être juste l'introduire avant de le lire?
Oui, avec plaisir. Il s'agit du poème « Correspondance » de Charles Baudelaire, que plusieurs connaissent sans doute. C'est vraiment le poème, c'est le poète certainement, mais peut-être le poème qui m'a vraiment ouvert à la littérature, à l'apprentissage de la poésie, de la synesthésie, d'une poétique symboliste naissante. C'est peut-être le poème qui fait naître le symbolisme, surtout d'après ce que Jean Moréas définit comme un mouvement où il faut vêtir l'idée d'une forme sensible et où nommer l'objet, c'est supprimer les trois quarts de son plaisir ou de sa jouissance, pour parler en termes lacaniens.
Ben allez-y, on vous écoute.
D'accord. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le banjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens.
Oui, un poème dont on ne se lassera jamais, décidément. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Antonio Viselli. On va se quitter sur Recueillement de Charles Baudelaire, chanté cette fois par Léo Ferré.
Merci à moi.
Merci.
Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Aux importants la paix, aux autres le souci. Que des mortels, la multitude vit. Sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel en robe surannée. Surgir du fond des eaux, le regret souriant. Le le soleil moribond s'endormit sous une arche. Et comme long linceul traînant à l'horizon, entends ma chère, entends la douce.
Charles Baudelaire, invité permanent de Paris s'éveille et d'Amuse-Gueule. Les portes obscures, les portes secrètes lui sont toujours ouvertes. Merci, merci à Anne-Catherine de cette émission, de cette interview vraiment bien tenue. L'assassin habite au 21. C'est un film dont je vais vous parler aujourd'hui dans le cadre de la série Le cinéma de papa. Ce film, c'est le premier film d'Henri-Georges Clouzot, qui est sur les écrans en 1942, donc pendant l'occupation. Il est produit par la Continental. Henri-Georges Clouzot, c'est ce grand réalisateur qui a commencé son œuvre pendant la guerre, à qui on doit le Corbeau notamment, qui lui a valu des ennuis avec l'occupant. Et la résistance, il faut faire. Et les diaboliques, le grand, les diaboliques, si intensément modernes. Donc l'assassin habite au 21 et son premier film. C'est un film noir, assez pessimiste. Il est inspiré d'un roman policier belge dans la verve des romans d'Agatha Christie. En anglais, on dirait que c'est un whodunit qui a commis le crime. L'histoire, elle commence avec ce clochard qui vient de gagner à la loterie et qui montre des billets un peu trop ostensiblement dans les cafés qu'il traverse, jusqu'à tard dans la nuit où, à la sortie d'un café, il est suivi par une caméra subjective. On ne voit que deux mains et le battement d'une canne sur le pavé. Une main gantée de noir sort une épée du fourreau d'une canne et lui glisse à travers le corps. Et cette même main dépose donc sur le corps encore chaud de ce clochard une carte de visite signée Monsieur Durand. Et c'est la cinquième victime de Monsieur Durand. Ce clochard. Le film commence tout à peine et vient de nous être présenté un serial killer. Le commissaire Wenz, c'est Pierre Fresnay dans son éternel rôle de juste. Pierre Fresnay, c'est Saint-Vincent de Paul, c'est le capitaine dans le film de Renoir, la Grande Illusion. C'est l'homme qui se tient droit. Et il se voit donner deux jours, donc c'est un commissaire dans ce film, il se voit donner deux jours pour arrêter l'assassin, sans quoi il devra présenter sa démission. Milou Malou, c'est sa petite amie qui est jouée par Suzy Blair. Elle aussi veut l'arrêter, mais pour des raisons bien différentes. C'est une petite actrice, à moitié une cocotte, qui a du mal à percer. Et elle espère que ces 5 minutes de gloire lui offriront des rôles. Alors elle aussi part à la recherche de l'assassin. Un certain Turlot, un ivrogne, offre à la police un tuyau précieux. Il a découvert des cartes de visite, donc au nom de ce fameux Monsieur Durand, devant une pension de famille, devinez où, au 21 rue Avenue Junot. Donc l'assassin habite donc au 21. Pension qui est dirigée par Madame Point, la gérante, pour qui travaille Armand, qui aime imiter les oiseaux devant les miroirs, et Juliette. Et au matin, le salon accueille les pensionnaires. Colin, d'abord, un petit artisan. Mademoiselle Cuc, une romancière de 75 ans qui cherche toujours éditeur. Et le docteur Linz, un ancien de la coloniale, boiteux, austère. Et enfin, Lalapour, un excentrique, un fakir de music hall. Mais Donc c'est un bel échantillon, ces gens-là, des seconds rôles très, très en vogue à l'époque. Donc Monsieur Colin, c'est Pierre Larquet, qui a tenu un autre de ses grands rôles dans Le Corbeau, du même Henri-Georges Clouzot, et dont les enfants se souviennent de la voix, puisqu'il est le fameux allumeur de réverbère du Petit Prince dans l'histoire. C'est la consigne, il faut suivre la consigne. Je ne sais pas si tu te souviens, Yvan. Il y a le Dr. Linz, lui, c'est Noël Roquevert, qui est très à son aise dans ce rôle de vieil aigri. Il joue à merveille les vieilles paternes, les colonels Petsec. Et enfin, dans le rôle de l'Alapour, le fakir, c'est Jean Tissier. On le surnommait à l'époque le nonchalant qui passe, peut-être à cause de son regard vague, un peu ahuri, de sa diction traînante et qui peut passer d'un rien de l'amusant à l'inquiétant. Bon, écoutons les idées à l'œuvre durant un petit déjeuner, à s'envoyer des pics, juste avant qu'un nouveau pensionnaire ne se présente, dont on reconnaîtra la voix de Père Firenet, déguisé en pasteur. Oui, il s'est déguisé en pasteur pour infiltrer la pension et démasquer le tueur, Monsieur Durand. C'est le petit déjeuner. On les écoute.
Tenez, Madame Point. Donnez-moi donc plutôt un whisky.
À 9h du matin.
Qu'est-ce que vous avez dit ?
Je me parlais à moi-même. Je pensais tout haut. Il n'est pas encore interdit de penser, n'est-ce pas ?
Si vous étiez capable de penser quoi que ce soit, ça se saurait.
Allons, monsieur, allons ! Allons, au risque pour la dissette !
Je ne suis ni d'âge, ni de caractère à me laisser juger par un petit bourgeois calamiteux. J'ai tiré 25 ans de brousse, ne l'oubliez pas.
Comment pourrions-nous l'oublier ? Vous nous le rappelez 20 fois par jour. Au lieu de vous engueuler, vous feriez mieux de me donner du feu.
Vous permettez, belle dame, vous permettez.
Professeur, toujours là quand il faut. Et vous désirez déjeuner ?
Non, je ne désire que le bout de vouloir rose pour y butiner un baiser.
Alors, pas de chocolat ?
Bon, si vous insistez, je prendrai les deux.
J'en étais sûre. Et un chocolat pour le 14 ?
Oui, et crémeux, hein ?
Crémeux !
Merci.
J'aimerais tout de même bien savoir quel est l'enfant de salaud qui s'est levé cette nuit pour aller fureter sous l'étoile.
Oh, je vous ai réveillé.
Comment c'était-vous, professeur ?
Mais c'était moi. Oh non, ça, je ne me le pardonnerai jamais.
Mais qu'est-ce que vous alliez faire là-haut ?
Eh bien, je vais vous dire. Non, mais ça peut vous paraître idiot, mais moi-même, j'avais cru entendre des pas au-dessus de ma tête. Oui, des bruits de pas étouffés et qui m'impressionnaient. Alors, ça a été plus fort que moi, je suis monté.
Et alors ?
Alors ?
Personne.
Ben, vous avez eu un cauchemar. Je vous ai prévenu, vous mangez trop.
C'est la faute à Madame Point. Le jour où elle fera la moins bonne cuisine, on mangera moins. Et voilà.
Madame, c'est un monsieur qui demande madame.
Mais tu l'as fait entrer dans mon bureau, monsieur ?
Non, madame. Le monsieur est ici. Je suis désolé, je vous ai fait peur.
Pas du tout, monsieur le pasteur, mais nous nous attendions si peu.
C'est bien normal.
C'est que dans les rues de Montmartre, on trouve moins de pasteurs que de poufias. Je veux dire, plus d'âmes égarées que de ministres du culte.
J'avais traduit.
Et à part ça, vous désirez quelque chose ?
Mon Dieu, une chambre, simplement. Vous n'avez rien de libre.
C'est-à-dire que je n'ai plus que des chambres à deux lits.
Et alors ?
J'avais pensé que pour un pasteur, l'image pouvait sembler choquante.
Mais chère madame, nous ne faisons pas vœu de célibat.
Non ?
Je suis mariée depuis 9 ans, j'ai 7 enfants. Et j'en attends un 8e.
Ça alors ?
C'est bien normal.
Je ne peux pas m'en rendre compte. Je suis une vraie jeune fille.
Mes compliments.
Oh, il n'y a pas de quoi.
Vous êtes de passage à Paris, monsieur le pasteur ?
Pour le congrès de l'église évangéliste.
Et on vous a donné l'adresse des Mimosas ?
Oh, pas du tout. C'est le hasard qui m'a conduit vers vous, ou la providence, comme vous voudrez. Disons, un hasard providentiel. Je descendais la butte lorsque, au moment où je passais sous vos fenêtres en lisant ma Bible, mon regard est tombé sur la parole sacrée, « Frappez et l'on vous ouvrira ». J'ai frappé. Un homme m'a ouvert en poussant le cri du coq, et m'a mené ici en imitant le chant du rossignol.
C'était charmant.
Le valet de chambre.
Il prépare un numéro de musical. C'est bien normal.
Voulez-vous me permettre de faire les présentations ? Monsieur Colin.
Un modeste artisan.
Docteur Linz.
Médecin colonial en retraite.
Et mademoiselle Cuc.
Une vraie jeune fille.
Enfin, notre vedette maison. Le professeur Lalapour.
Un savant.
Un artiste, monsieur le pasteur. Le roi de la manipulation, le maître du mystère, tout simplement.
Vous tenez à votre alliance, monsieur le pasteur.
Ma femme y tient.
Alors ne la confiez pas au professeur. Il a transformé celle de Madame Point en fer à repasser.
Soyez tranquille, je me méfierai. Et le cas échéant, j'essaierai de deviner ses tours.
Si ça vous amuse ?
Ça m'intéresse, car il faut regarder non point aux choses visibles, mais aux invisibles, qui sont éternelles.
Voilà le choco. Et le whisky.
Un whisky, monsieur le pasteur, pour fêter votre arrivée?
Non, merci, vraiment.
Ah, dans votre profession, vous faites des enfants, mais vous ne buvez pas de whisky?
Au contraire, seulement je ne bois que le mien. Vous permettez? J'ai beaucoup vécu aux colonies.
Où étiez-vous?
En plein bled. Mais de quel côté?
Bon, un peu partout.
C'est curieux, moi aussi. Nous évoquons nos souvenirs ensemble.
Si vous reveniez de l'enfer, vous n'éprouveriez peut-être pas le besoin d'en parler.
L'image est osée, docteur. On ne revient pas de l'enfer. Jamais. À votre santé.
Eh bien, monsieur le pasteur, je vais vous conduire à votre chambre. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous donnerai le 13.
C'est bien normal. Je ne suis pas superstitieux. Je vous suis, madame. J'oubliais de me présenter. Je m'appelle Robert Lester et j'essaie d'aider les hommes à faire leur salut. Messieurs, à votre service.
Et dans la pension, il y a aussi Kid Robert, un ancien boxeur qui est devenu aveugle à la suite d'un combat, et son infirmière, Vania. On découvre un peu plus tard, par la bouche de M. Colin, que Linz, le colonel Petsec, l'ancien des colonies, a été poursuivi pour une affaire d'avortement et que Lalapour, derrière ses dehors bonhommes, n'est pas monté sur scène depuis des mois et qu'il doit bien vivre de quelque chose de louche. Mais écoutons plutôt M. Colin.
Oh, pardon.
Ah, c'est vous, monsieur le pasteur?
Non, je m'excuse, je me suis trompé de porte.
Mais entrez dans un instant.
Je craindrais de vous importuner.
Au contraire, j'aime bien la conversation. Et ici, je ne suis pas gâté sous ce rapport. Tenez, asseyez-vous. C'est un lot de pantalons pour mes poupées. Comme vous voyez, je fabrique des pantins. Ah, vous regardez leur tête. Eh oui, elles ne portent pas de visage. C'est un truc à moi. Avant, on me livrait des figures stupides, sans expression, sans regard. Ça m'embêtait de coller ça sur mes petits bonshommes. Alors un matin, en ouvrant le journal, il m'est venu une idée. Monsieur Durand, le meurtrier sans visage. Si je fabriquais des Durand avec une boule à la place de tête. Au début, les détaillants voulaient que je dessine dessus un point d'interrogation. Mais j'ai refusé, c'était trop grossier. Cette blancheur est autrement redoutable. On y lit ce qu'on veut. Je fais des Durand qui poignardent, qui fusillent, qui étranglent. C'est horrible. Mais ça rapporte des sous. Et j'en avais besoin pour ne rien vous cacher. C'est que la vie n'a pas été très bonne pour moi jusqu'ici. Et quand je dis la vie, ce sont les hommes. Les hommes sont mauvais, monsieur le pasteur. Quelle ménagerie! Tenez, prenez ici. Mademoiselle Cuc, n'en parlons pas, c'est une vieille folle. Mais le docteur Linz. Vous savez qui c'est, le docteur Linz? Alors, prix de justice, tout simplement. Voilà 3 ans, il a été poursuivi pour une affaire d'avortement. Un joli monsieur, hein? Et encore avec lui, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Avec Lalapour, c'est autre chose. On ne sait rien. Voilà des mois et des mois qu'il n'a été engagé nulle part. Alors, de quoi vit-il? Mystère. Et mystère pas propre, je vous prie de le croire. On dit qu'il paie Madame Point en nature, qu'il a des bontés pour elle. Je ne dis pas le contraire, mais je connais bien la patronne. Et la boîte portée sur la chose, elle est encore plus portée sur son porte-monnaie. Mais il ne faut pas dire du mal de son prochain, n'est-ce pas, monsieur le pasteur?
Vous avez raison, monsieur Colin. La charité d'abord.
Oui. Ah, j'oubliais Kid Robert avec son infirmière.
Ce sera pour la prochaine fois.
Le soir, au repas, l'inspecteur, le commissaire Vance plutôt, découvre que Mila, sa fiancée, qui cherche aussi à arrêter le fameux monsieur Durand, est là, à la pension. Le repas fini, les pensionnaires discutent. Madame Cuc annonce qu'elle va désormais écrire des romans policiers. Et à propos du choix du nom de son héros, Linz suggère celui de Durand, dont il fait les louanges, et ce n'est pas la première fois. Alors, on l'écoute.
Monsieur Durand est un grand homme, un être exceptionnel. Dites un monstre, un horrible monstre.
Parce qu'il supprime de temps en temps quelques-unes de ces larves qui se prennent pour des hommes. Ah là là, je ne lui reproche qu'une chose, c'est de se contenter du poignard et du lacet au lieu d'employer la mitrailleuse, la dynamite et les gaz asphyxiants.
C'est une apologie du meurtre.
Non, de l'hécatombe. Monsieur Durand me plaît dans la mesure où il travaille en série.
Et vous le félicitez aussi de dévaliser ses victimes.
Pourquoi pas? Quand on voit quel usage nos contemporains font de leurs sous.
Monsieur l'anarchie, vous êtes un anarchiste.
Et vous un pauvre petit crétin. Un crétin minuscule.
Ce n'est pas moi, c'est vous qui justifiez Durand, du seul fait que vous existez. Et s'il pouvait m'entendre, c'est vous qui seriez sa prochaine victime.
Merci beaucoup, vous êtes bien aimable. Mais d'ici là, j'espère bien que votre ami Durand se sera fait pincer.
Par la police ?
Vous me faites rigoler. Durand se moque bien d'une bande de roquets et de mouchards.
S'il y a un dieu, il sera pris.
Oui, mais voilà, y a-t-il un dieu ?
J'espère que vous n'en doutez pas.
Vous voyez que monsieur le pasteur est de mon avis. Durand sera pris un jour ou l'autre.
Pris, je l'ignore, mais damné, il le sera.
Il l'est déjà, et il en est fier.
Docteur Lins, vous paraissez admirablement renseigné sur les pensées de monsieur Durand. Seriez-vous un de ses amis ?
Un de ses amis ?
Non. Vous n'allez pas nous faire croire que vous êtes monsieur Durand lui-même.
Croyez ce que vous voudrez.
Vous n'êtes pas monsieur Durand.
Qu'en savez-vous ?
Parce que je vais vous dire, monsieur Durand, c'est moi. Et je le prouve. Regardez-moi bien. Regardez-moi attentivement. Il est mort. Pauvre petit oiseau. Et voilà pourquoi je suis monsieur Durand.
Je regrette d'avoir à vous le rappeler, professeur. Mais il y a des sujets qui ne souffrent pas la plaisanterie.
Pardonnez-moi, cher ami, ce sont malheureusement les seuls dont j'ai marre.
Attendez ! Attendez ! Je tiens mon roman. Et c'est mademoiselle qui m'en a donné l'idée. Comme décor, une petite pension de famille, les Mimosas. Monsieur Durand est l'un des autres, l'un de vous. Et le détective s'introduit dans la place déguisé en ecclésiastique. Vous m'excuserez, monsieur le passeur.
Mais voyons, faites donc.
Le premier chapitre se passe en conversation, comme matin. Et tout de suite après, quand tout le monde est couché, un meurtre, un beau meurtre, un sanglant.
Et allez donc.
Du sang, du sang, du sang.
Et que ça coule.
Un plein ruisseau.
Assez ! Assez, vous êtes des fous. En ce moment, vous déchaînez des forces malfaisantes, incontrôlables.
Qu'est-ce qui vous prend ?
Rien du tout. Et moi qui suis toujours dans la nuit, je vous le dis, cette nuit ne se passera pas sans qu'il arrive ici un grand malheur. Vania.
Et Kid Robert, le boxeur, ne trouve a dit vrai, puisque cette nuit-là, on retrouvera le corps sans vie de Mademoiselle Cuc, la vieille romancière dans la baignoire de la pension. Un bout de papier a été déposé sur elle, dessus, ces deux mots écrits en lettres capitales, Monsieur Durand. Donc, les pensionnaires sont arrêtés. Or, s'il est avéré que personne, à l'exception d'eux, n'a pu commettre le meurtre, car les portes étaient fermées à double tour de l'intérieur, chacun jouit d'un alibi en béton. On croit tenir le coupable, d'abord Monsieur Colin, puis le docteur Lins, enfin la Lapour, et à chaque fois, pendant que l'un ou l'autre est en prison, les crimes de l'insaisissable Monsieur Durand continuent. Et c'est là qu'arrive le dénouement. L'inspecteur Vence et Pierre Freinet et Mila, sa fiancée, sont invités par Mademoiselle Point pour une petite réception organisée pour fêter la libération de tous ses pensionnaires. Mila va y chanter. Le soir, dans la fête, pendant la fête, dans la loge de Mila, alors qu'elle lit le programme de la soirée où est inscrit le nom de Colin, de Lins, de la Lapour, on se rend compte d'une chose. Vence a une illumination et lui annonce qu'il a trouvé qui est Monsieur Durand. Mais je ne vais pas spoiler. Tu sais comment on dit spoiler en français ?
Je ne me rappelle plus.
Ce sont nos cousins québécois qui ont trouvé cette expression qui fait mouche. On dit divulgacher.
Divulgacher.
Donc je ne divulgacherai rien. Tu lis des romans policiers, Yvan ?
Non, ça fait un moment que j'ai pas lu de. Là, en ce moment, je lis des livres plutôt, disons, plus ou moins scientifiques, mais pas trop de romans policiers.
Donc des mystères, mais de toute espèce. Dans des situations pareilles, donc prenons les romans policiers de la Belle Époque, ceux d'Agatha Christie, quand il y a un huis clos et que des assassinats sont commis en série, il n'y a pas 36 solutions. Soit il s'agit le criminel est un personnage secondaire, à la périphérie, auquel on ne fait pas attention parce qu'il est en dehors de tout soupçon. En général, c'est une femme faible ou un enfant. Soit c'est quelqu'un qui est en dehors de tout soupçon, cette fois-ci parce qu'il a été tué et qu'il a déguisé son crime est une imposture, il revient à la vie, à la surprise de tous. Ou alors il s'agit, et c'est le scénario, par exemple, du crime de l'Orient Express, de plusieurs personnes qui se couvrent elles-mêmes et qui se cachent derrière un seul homme. Enfin, je vous dis rien, on le trouve assez facilement, donc il est distribué par René Château, c'est l'assassin habito 21. Est-ce que tu iras le regarder, Yvan? Est-ce que ça t'a donné...
Ben oui, mais on parlait justement de comment trouver les films anciens comme ça. Donc, si vous n'avez pas le DVD, vous n'avez pas la cassette VHS, vous pouvez vous rendre sur YouTube.
Pas pour celui-ci. Il existe des films d'avant-guerre sur YouTube, mais pas celui-ci, malheureusement.
Et tu l'as trouvé comment?
Je ne sais plus, ça fait longtemps que je l'ai dans ma réserve secrète. Mais je pense qu'on peut le retrouver. Et quel plaisir ce fut de voir un film qui fait moins d'une heure et demie. Je ne supporte plus d'aller au cinéma et de voir des navets de 2h20.
Il n'y a peut-être pas que des navets, mais il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. On va pas écouter Johnny Hallyday consentement, donc on va l'écouter ce soir. On l'écoute Retiens la nuit. À tout de suite.
Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour. Et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit. Avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit. Mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures. Je t'en à l'infini, retiens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse. Ne me demande rien, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je prône la détresse. En croyant au bonheur, la peur entre en mes joies.
Retiens la nuit
pour nous deux. Jusqu'à la fin du monde,
retiens la nuit.
Pour nos cœurs dans sa course vagabonde, serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et ne fasse oublier la vie.
Retiens.
Avec toi, elle paraît si belle.
Oh, retiens la nuit.
Mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures. Je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit. Oh, je t'en supplie à l'infini, retiens la nuit.
J'ai toujours été bon pour finir les phrases de Johnny. Toi, Yvan, sosie de la misère mondaine, tu sais à peu près tout ce qui se passe, où il faut être, où il faut être vu, où il faut apparaître transparent, à moitié là, clignotant presque.
Non, bon, en fait, moi, je connais un petit peu la musique, puis la musique que j'aime.
Et la musique te connaît.
Sur Auckland, mais je connais pas trop le jazz ni le classique, mais bon, plutôt rock et puis expérimental. Et il y avait les concerts de Foo Fighters pour les courageux qui ont bravé la pluie hier. Genre, apparemment, c'était un bon concert. Il y avait aussi un excellent concert à King's Arms, qui va fermer bientôt, malheureusement.
King's Arms.
Ouais, trois groupes de Napier. Groupe un peu C'est Metal, Heavy Metal. Et un autre groupe super bon, uniquement musical, qui s'appelait Jacob. La salle était pleine. Donc ça, c'était sur Auckland. Il y a beaucoup de bonne musique sur Wellington aussi. Et je voulais parler aussi de deux films que j'ai vus récemment, deux films français, puisque nous faisons une émission en français. Un film, Le Petit Paysan, qui raconte le stress d'un paysan français de notre époque qui perd ses vaches une à une, qui sont malades, et ça raconte son stress. Un très bon film. Et un autre film...
Moi, j'ai vu la version avec un boulanger où le mec, il faisait trop cuire ses baguettes et une à une, il devait les mettre à la poubelle. C'était assez déchirant aussi. Non, je plaisante.
non, mais un bon film. Et un autre film tout à fait différent qui s'appelle Voir du pays. Alors ça, c'est un film sur l'armée française qui revient d'une mission en Afghanistan et qui passe par Chypre. Donc, il y a pas mal d'actrices que je connais pas, d'acteurs et d'actrices que je connais pas forcément, à part une qui s'appelle Soko. Je crois qu'elle s'appelle Stéphanie Sokolevski ou quelque chose comme ça, et qui est chanteuse aussi. Elle joue très bien dans ce film. Et sa particularité, c'est que... Dans la musique, elle a toujours écrit en anglais, elle a toujours chanté en anglais. Ses deux premiers albums étaient en anglais. Et là, elle a fait une reprise en français de Diabolomante. Donc, on va essayer de l'écouter. Et après, on essaiera de trouver qui a écrit la version originale.
Tu m'intrigues, Yvan.
Ouais. Voilà, c'était Soko, la reprise de Diabolomante.
Et donc reprise d'une chanson d'Yves Simon.
Yves Simon, voilà. Voilà. Ouais, dans les années 70, hein, je crois qu'il a écrit ça, quoi. Puisque c'est aussi un film. Tu me disais que c'était Diablo Monde, oui, c'était un film.
C'est un film, il faudrait que je vois, mais le nom de Diane Curis me vient à l'esprit. Un film sur, oui, sur l'adolescence en vacances qui date de la fin des années 70, si mes souvenirs sont pas trop mauvais.
Voilà, c'est l'émission nostalgie un peu.
Oh bah toujours. Bah ouais, hein. L'avenir, ça sourit un peu moins que le passé. Hein. mon bonheur est derrière moi, ça c'est certain.
Donc, Diabolomante, oui. Si on a l'occasion de regarder le film, je jetterai un œil sur le film que je n'ai pas vu.
Eh bien, fais des recherches. Voilà. Va sur YouTube, va sur...
Reprise assez surprenante de Soko. C'est pas de la tasse de thé.
C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Enfin, j'aime bien la guitare à la R. C'est bien.
Ouais, le premier album de Soko est très très intéressant. Elle a écrit ça, un album entièrement dédié à la dépression. Ce qui est toujours bon quand même.
Bah, en parlant de dépression, on se dit au revoir sur ses larmes. Et on écoute une chanson qui rend triste, mais qui fait pleurer ouais. Qui fait pleurer, mais pleurer, c'est bon pour la peau. On écoute Fernand, chanté par Jacques Brel. À la semaine prochaine.
Bonsoir.
Dire que Fernand est mort. Dire qu'il est mort, Fernand. Dire que je suis seul derrière. Dire qu'il est seul devant. Dans cette dernière bière, moi, dans mon brouillard, lui, dans son corbillard, moi, dans mon désert. Devant, y a qu'un cheval blanc. Derrière, y a que moi qui pleure. Dire qu'il n'y a même pas de vent pour agiter mes fleurs. Moi, si j'étais le bon Dieu, je crois que j'aurais des remords. Dire que maintenant il pleut. Dire que Fernand est mort. Qu'on traverse Paris dans le tout petit matin. Dire qu'on traverse Paris et qu'on dirait Berlin. Toi tu sais pas, tu dors, mais c'est triste à mourir. D'être obligé de partir quand Paris dort encore. Moi, je crève d'envie de réveiller des gens. Je t'inventerai une famille juste pour ton enterrement. Si j'étais le bon Dieu, je crois que je serais pas fier. Je sais, on fait ce qu'on peut, mais il y a la manière. Tu sais, je reviendrai. Je reviendrai souvent dans ce putain de champ où tu dois te reposer l'été. je te ferai de l'ombre. On boira du silence à la santé Constance qui se fout bien de ton ombre. Et puis, les adultes sont tellement cons qu'ils nous feront bien une guerre. Alors, je viendrai pour de bon dormir dans ton cimetière.